VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 24 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia pour le journal et Jacques Aristide pour la partie magazine. D'abord les titres, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont proclamé l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le continent africain doit se préparer au pire, la pandémie s'accélère. En République démocratique du Congo, deux anciens ministres, dont le docteur Oli Ilunga, ex-responsable de la lutte contre Ebola, ont été condamnés pour détournement de fonds. En Guinée, de nouveau heurts hier à Conakry, au lendemain d'un vote sous tension. Washington réduit son aide à l'Afghanistan après l'échec d'une médiation du secrétaire d'État Mike Pompeo à Kaboul. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, face à l'évolution du Covid-19, le président Macky Sall a décrété l'état d'urgence et mobilisé les forces de défense et de sécurité pour son application stricte. D'autres mesures ont également été annoncées comme le couvre-feu, la restriction de certaines libertés, la mobilisation de 1 000 milliards de francs CFA pour soutenir l'économie, le déblocage de 50 milliards pour une aide alimentaire d'urgence et des mesures fiscales exceptionnelles pour soutenir les entreprises et la presse. Le président Sall, hier, à ses compatriotes.
Ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures, d'ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunion. Ces mesures non exhaustives pourraient évoluer en fonction des circonstances. Elles sont assorties d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h.
Le président Macky Sall, qui a déclaré l'état d'urgence hier au Sénégal. De son côté, le président Alassane Ouattara a proclamé l'état d'urgence en Côte d'Ivoire, assorti d'un couvre-feu, des mesures toutefois difficiles à appliquer selon les observateurs, dans un continent où sortir travailler est parfois une question de survie. Le point avec Jean-Roger Bion.
Après plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine notamment, l'Afrique, le continent le plus pauvre de la planète, adopterait progressivement le confinement, une mesure destinée à sauver des vies mais qui paralyse l'économie. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a imposé lundi un confinement strict de 3 semaines dans son pays, le plus touché par l'épidémie de coronavirus en Afrique subsaharienne. L'Afrique a pourtant été jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie par rapport au reste du monde. Au moins 1628 cas, dont une cinquantaine de morts, ont été déclarés sur le continent, contre plus de 360 000 cas d'infection et 16 000 décès au total sur la planète, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Mais la très grande faiblesse des services de santé dans les pays africains laisse craindre que la pandémie puisse être dévastatrice. Déjà effectif en Tunisie, au Rwanda et à Maurice, le confinement a aussi été imposé lundi à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et dans les deux principales villes de Madagascar, la capitale Antananarive et Toamasina.
Pour l'Organisation mondiale de la santé, le continent africain doit se préparer au pire après l'annonce du premier mort en Afrique subsaharienne de la pandémie au Burkina Faso. Eric Manirakiza.
L'OMS a condamné hier l'administration de médicaments aux patients infectés par le nouveau coronavirus avant que la communauté scientifique se soit accordée sur leur efficacité, mettant en garde contre les faux espoirs qu'ils pourraient susciter. Au Mali, l'option du confinement est jusqu'ici écartée. 143 tests du virus, tous négatifs, ont été effectués à la date de jeudi dernier. L'Éthiopie a annoncé hier la fermeture de ses frontières terrestres, à l'exception de la circulation des biens jugés essentiels. Aucun confinement n'a été décrété en Éthiopie. 3 décès dus au Covid-19 ont été recensés en Tunisie et 90 cas ont été officiellement confirmés. Un confinement général a débuté dimanche. En Égypte, des agents d'entretien ont désinfecté lundi les locaux de plusieurs sites touristiques. Dimanche, L'Égypte comptait 327 cas officiellement déclarés et 14 décès dus à la maladie COVID-19.
La pandémie s'accélère, mais sa trajectoire peut être modifiée, a estimé hier l'Organisation mondiale de la santé, qui a appelé les pays à passer à l'attaque. Claire Morin-Gibourg.
Plus de 300 000 cas de COVID-19 ont été signalés à ce jour. C'est déchirant, la pandémie s'accélère, a déclaré hier le directeur général de l'OMS au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève. Mais nous pouvons changer sa trajectoire, a-t-il ajouté. L'Espagne a vécu hier sa journée la plus noire depuis le début de la pandémie, avec près de 500 morts de plus en 24 heures, obligeant jusqu'à transformer une patinoire de Madrid en morgue. Les autorités vont prolonger le confinement jusqu'au 11 avril. L'Italie a passé la barre des 6000 morts, mais les nouveaux cas sont en baisse depuis deux jours. À New York, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a solennellement appelé à un cessez-le-feu mondial et immédiat. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a haussé le ton à propos des citoyens qui continuent de se rassembler en dépit des interdictions. Gardez 2 mètres entre vous et quelqu'un d'autre, évitez les groupes et restez à la maison le plus possible, a recommandé M. Trudeau devant sa résidence à Ottawa, où il est en isolement volontaire depuis que son épouse a été diagnostiquée positive au coronavirus. Au Sénat américain, républicains et démocrates ont de nouveau échoué hier à s'accorder sur un plan massif de relance de l'économie. Ce projet de loi vise à mobiliser jusqu'à près de 2000 milliards de dollars.
Et les autorités de New York, épicentre américain de l'épidémie, ont appelé lundi le président américain Donald Trump à déclarer un confinement coercitif national. Mais ce dernier a laissé entendre qu'il était plutôt favorable à l'assouplissement des mesures de restriction. L'Amérique sera bientôt de nouveau ouverte aux affaires, très bientôt. Nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le problème lui-même, a déclaré M. Trump lors de son point de presse quotidien à la Maison-Blanche. À noter qu'il y a eu une montée en puissance des cas aux États-Unis, 573 morts et plus de 41 500 contaminations selon certains décomptes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, 2 anciens ministres ont été condamnés hier à des peines de prison pour détournement de fonds, d'après une source judiciaire. Le point avec Nani Talani.
L'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga, qui avait géré le début de l'actuelle épidémie d'Ebola en RDC, et l'ex-ministre des Finances de la province de Kinshasa, Guy Matondo, ont respectivement été condamnés à 5 et 8 ans de travaux forcés par la Cour de cassation. Le docteur Ilunga, ministre de 2016 jusqu'à sa démission en 2019, est accusé avec l'un de ses collaborateurs d'avoir détourné environ 400 000 dollars destinés à la lutte contre l'actuelle épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, d'après l'arrêt de la Cour de cassation consulté par l'AFP. Dans un communiqué, l'ex-ministre a déclaré n'avoir jamais perçu aucune des sommes imputées. Il soutient que les sorties de fonds ont été effectuées à son insu par un collaborateur. Guy Matondo, lui, est accusé d'avoir détourné au total 21,7 millions de dollars et 235 millions de francs congolais, selon l'arrêt de la Cour de cassation, également consulté par l'AFP. Maître Michel Omba, l'avocat de Guy Matondo, dénonce un scandale judiciaire. La peine des travaux forcés n'étant pas exécutée en RDC, les personnes condamnées vont purger leurs sanctions en prison.
La capitale guinéenne, Conakry, a été le théâtre d'affrontements sporadiques lundi au lendemain d'un référendum sur la constitution et des législatives marquées par des violences. L'opposition voit dans ces consultations un stratagème de M. Condé, le président guinéen, pour briguer un troisième mandat fin 2020. Le vote a donné lieu à des affrontements, à des attaques de bureaux et à la destruction de matériel électoral à Conakry et ailleurs dans le pays, au moins moins 11 civils ont été tués par des forces de sécurité, a dénoncé l'opposition. Les États-Unis ont nettement réduit lundi leur aide à l'Afghanistan et confirmé le retrait progressif de leurs troupes après l'échec d'une médiation du secrétaire d'État Mike Pompeo auprès des dirigeants politiques à Kaboul. Il a rencontré le président Ashraf Ghani et l'ex-chef de l'exécutif Abdallah Abdallah, qui s'est lui aussi proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 28 septembre, entaché d'accusations de fraude. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Japon admet la possibilité d'un report des Jeux Olympiques. Le monde peut toujours compter sur le Japon pour accueillir les Jeux cet été, a déclaré le Premier ministre japonais Shinzo Abe devant le Parlement nippon. Il a toutefois admis que si cela devenait difficile, en tenant compte en priorité des athlètes, la décision d'un report pourrait devenir inévitable. Les Jeux Olympiques doivent normalement se tenir à Tokyo du 24 juillet au 9 août et les Paralympiques du 25 août au 6 septembre. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, s'est aussi rangée derrière les propos de M. Abe et du CIO, acceptant qu'un report fasse partie des scénarios qui seront discutés durant les quatre prochaines semaines. Ces discussions n'envisagent pas l'annulation pure et simple de l'événement, exclu aussi par M. Abe et le Comité international olympique. En football, l'UEFA a formalisé le report des finales des Coupes européennes. L'Union des associations européennes de football a entériné le report des finales de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue des champions féminines initialement prévues en mai. La semaine dernière, l'UEFA avait suspendu ses compétitions jusqu'à nouvel ordre. En raison de la pandémie de coronavirus, la finale de la Ligue des champions aurait dû se tenir à Istanbul le 30 mai, trois jours après la finale de la Ligue Europa à Gdańsk en Pologne le 27 mai. La finale de la Ligue des champions féminine pour sa part était programmée à Vienne le 24 mai. Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, n'a pas exclu que pour aller à leur terme, les compétitions européennes de clubs fassent cette saison l'objet d'un format novateur. La presse a évoqué la possibilité de rencontres éliminatoires uniques en remplacement des traditionnels matchs aller-retour. Toujours en Europe, le football espagnol est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Tout le football espagnol amateur et professionnel, initialement arrêté pour deux semaines, a été suspendu jusqu'à l'obtention du feu vert des autorités. Sur le continent africain, l'actualité footballistique reste marquée par le décès tragique de deux joueurs du club nigérien d'Enugu Rangers. Les Nigériens George Ifeanyi et Emmanuel Ogbu sont morts dans un accident de la circulation alors qu'ils se rendaient à Lagos après la suspension du championnat pour cause du coronavirus. D'après les premières images, la voiture des deux joueurs d'Enugu Rangers a heurté un camion garé vers Lagos sur la route express Bénin à bord. Un troisième passager qui était aussi à bord a péri dans l'accident. Le plus connu des trois passagers, Ifeanyi George, 26 ans, était l'attaquant des Rangers depuis 2017 après un passage à Enimba. Il a joué en équipe nationale A' avec les Super Eagles locaux à deux reprises.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour et merci pour le journal Idrissa. Madame, monsieur, bonjour. Il est donc l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans le Monde aujourd'hui, au micro Jacques Aristide. En Guinée, on attend toujours les résultats des législatives et du référendum constitutionnel de dimanche. Le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir, se félicite de l'engouement suscité par les deux scrutins. Dans la capitale Conakry, plusieurs boutiques sont restées fermées et certains axes routiers presque déserts, ce qui est plutôt inhabituel, mais c'est au lendemain d'une journée de vote perturbée par des affrontements meurtriers. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Dans la capitale guinéenne, le double scrutin de 22 mars est très commenté. Chacun y va de son analyse. Pour Mohamed, le président Condé a eu raison de consulter le peuple.
Si la nouvelle constitution est pour le peuple, il faut consulter le peuple. C'est au peuple de se définir là-dessus. d'accepter ou de ne pas accepter. Il a eu raison de consulter le peuple et au peuple d'accepter oui ou non.
Est-ce que vous serez de ceux qui applaudiraient le président Condé d'aller vers un troisième mandat?
Non, je ne serai pas pour un troisième mandat parce que c'est tenant compte de beaucoup de choses. Ce n'est ni parler de son âge, ni parler de ses réalisations, ni parler de quoi que ce soit. Mais il est arrivé au terme de ses deux mandats. S'il réussissait à renouveler, que ce soit pour la nouvelle génération.
Les opérations de vote ont été perturbées par endroits par des violences. 6 personnes ont été tuées selon le ministre guinéen de la Sécurité. Une situation qui inquiète Ibrahima.
Ce que nous déplorons beaucoup, qu'il y ait des manifestations, les casses, il y a eu même des tueries dans certaines villes, dans certains quartiers de la capitale. Ce n'est pas du tout normal. Il y a en a vu des présidents qui sont partis au référendum, qui ont changé la constitution avant de se prononcer, d'aller au troisième mandat ou pas. Le président Condé n'a pas encore dit si vraiment il va aller au troisième mandat. Je crois qu'il va demander qu'il va s'en aller, vu de son âge et ce qui se passe dans le pays. C'est quelqu'un qui est mûr, intellectuellement bien assis.
Depuis octobre dernier, le Front National pour la défense de la Constitution manifeste dans les rues contre le changement de constitution. Ce collectif, composé de partis politiques et d'activistes de la société civile, a atteint ses limites, estime ce jeune sans emploi.
Dans les règles de l'art, s'ils n'ont pas d'autres ambitions politiques, quoi que ce soit, ça devrait s'arrêter à partir d'hier. Parce que nous voulons la paix maintenant. Avant tout, c'est la paix. Et on a vu que FNDC, c'est leur côté violent qui a prôné sur le côté positif, un peu comme ça. Et à partir d'hier à 18h, le FNDC doit s'arrêter.
Le FNDC a appelé les Guinéens à se mobiliser. Ce lundi, les boutiques sont restées fermées et la circulation peu dense sur l'autoroute Le Prince, créant un sentiment de peur chez certains Guinéens à l'image de Khalil.
Ça fait des mois maintenant, il y a des manifestations. On n'arrive pas à calmer. Le gouvernement n'arrive pas à maîtriser la situation. C'est pas lorsque maintenant ces manifestations prennent une autre ampleur qu'on va se dire rassuré ou pas. Non, c'est pas rassuré aujourd'hui. Vu la sécurité du pays, c'est un sentiment de peur qui m'anime.
Pensez-vous que la situation pourrait s'améliorer?
Oui, mais tout dépend du président. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui reste, c'est de connaître sa position. Je crois que la position du président aujourd'hui vis-à-vis d'un troisième mandat peut être déterminante ici pour calmer ou empirer la situation du pays.
Avec la nouvelle constitution, on peut s'attendre à des candidatures indépendantes lors de la prochaine présidentielle prévue cette année. L'Assemblée nationale, elle, aura une nouvelle configuration avec une absence des principaux partis d'opposition, dont le FDG de Sélu d'Alain Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Et cette interrogation ce matin, quel peut être l'effet du coronavirus sur les femmes enceintes? C'est une question que nombre d'entre vous se posent sans doute. Et ce matin, nous allons tenter de vous apporter quelques éléments de réponse en se basant sur des sources fiables. Coronavirus et femmes enceintes, les explications de Salwa Jaafari.
Question du jour, quel est le risque pour les femmes enceintes de contracter le Covid-19? Si elles sont infectées, seront-elles plus malades que les autres personnes? Voici quelques éléments de réponse des CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis. Le Covid-19 est une nouvelle maladie et nous en apprenons toujours sur le mode de propagation et la gravité de cette maladie. Les CDC ignorent actuellement si les femmes enceintes ont plus de chances de tomber malades à cause du Covid-19 que le grand public, ni si elles sont plus susceptibles d'avoir une maladie grave en conséquence. Il est toujours important pour les femmes enceintes de se protéger des maladies, d'autant qu'elles subissent des changements dans leur corps qui peuvent augmenter leur risque de certaines infections. Comment se protéger contre le Covid-19 ? Les femmes enceintes devraient faire les mêmes choses que le grand public pour éviter l'infection. Vous pouvez aider à stopper la propagation du Covid-19 en prenant les mesures suivantes. Couvrez votre toux. Utiliser votre avant-bras est une bonne technique. Évitez les personnes malades. Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Autre question, le Covid-19 peut-il causer des problèmes de grossesse? Les CDC ignorent pour l'instant si ce nouveau coronavirus causerait des problèmes pendant la grossesse ou affecterait la santé du bébé après la naissance. Le Covid-19 peut-il être transmis d'une femme enceinte au fœtus ou au nouveau-né? Les CDC ignorent pour l'instant si une femme enceinte atteinte de Covid-19 peut transmettre le virus qui cause cette maladie à son fœtus ou à son bébé pendant la grossesse ou l'accouchement. Aucun nourrisson né d'une femme atteinte de Covid-19 n'a été testé positif au virus. Si une femme enceinte a le Covid-19 pendant la grossesse, cela nuira-t-il au bébé? Les CDC ignorent pour l'instant si des risques sont posés au nourrisson d'une femme enceinte qui a le Covid-19. Qu'en est-il de la transmission du Covid-19 par le lait maternel?
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Bénin, les autorités ont pris des mesures pour tenter de contenir la propagation du Covid-19, des mesures jugées insuffisantes par certains Béninois qui estiment qu'il fallait fermer les écoles, les marchés, les bars et restaurants. Le ministère de la Santé rassure et appelle la population au calme. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Depuis le samedi 21 mars, les églises, les mosquées et autres lieux de prière sont fermés et ce jusqu'au 5 avril prochain. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie. Mais pourquoi fermer ces lieux de prière et laisser les écoles où les enfants sont le plus exposés? Les universités où plus de 1000 étudiants se retrouvent dans une salle. Sur la question, le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, pense que les élèves sont plus en sécurité à l'école qu'à la maison, livrés à eux-mêmes.
Ce qu'il nous faut faire au niveau de nos écoles, c'est de nous assurer que nos enfants puissent effectivement respecter ces règles d'hygiène, notamment le lavage systématique des mains à l'eau et au savon. Et nos enfants savent aussi très bien véhiculer le message qui seront les meilleurs vecteurs pour passer la bonne information sur le lavage des mains.
Face à la montée des contestations sur la toile pour fustiger ces mesures jugées insuffisantes, quelques acteurs politiques se sont lancés dans la sensibilisation et au respect des mesures prises par le gouvernement.
Notre foi en notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ne doit pas nous conduire à manquer de bon sens, d'intelligence, de responsabilité face au fléau qu'il faut prendre très au sérieux.
Donc, prenez conscience, le mal existe, la pandémie existe. Attention à nous.
Sauvons nos têtes, sauvons nos vies, c'est de respecter les consignes données.
À l'annonce du deuxième cas de contamination, les produits comme les désinfectants, les masques ont triplé de prix d'achat. Dans les pharmacies, c'est déjà la rupture de stock dans plusieurs endroits. Quelques clients rencontrés se plaignent de ce que les produits censés aider à prévenir le mal soient en manque ou vendus à des prix exorbitants.
Le gel, je veux 7, mais ils m'ont dit que je peux avoir que 1. Et en ce qui concerne les cache-nez, ils m'ont dit que je peux avoir 5.
Vous pensez à ceux qui n'ont pas assez de moyens pour qu'ils puissent quand même s'en procurer, donc permettre aux gens de l'avoir facilement.
Mais pour le pharmacien qui requiert l'anonymat, la spéculation ne dépend pas des pharmacies, mais des fournisseurs qui se servent de la pandémie pour livrer ses produits au-delà du prix habituel.
Nos fournisseurs, lorsque nous nous rapprochons de pour avoir les produits, ils nous informent que le prix a augmenté. Nous, au vu du fait que nous devons satisfaire nos clients, nous sommes obligés de prendre à ces prix très élevés et forcément c'est le consommateur final qui se retrouve à payer le surplus.
Les mesures de restriction ont atteint aussi les prisons jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement suspend les visites aux prisonniers. Gilles Yekpe est le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin.
Les dispositions qui sont prises consistent à interdire ou à suspendre les visites aux détenus, histoire de maîtriser, de contenir ce mal.
Les prisonniers qui acceptent difficilement la nouvelle règle ont quand même des doléances. La plus importante reste l'achat des produits désinfectants qui, selon leur porte-parole, pourraient leur coûter cher.
Il y a un petit problème qui va se poser. Parce que nous, les détenus, on se connaît. Les produits qu'on va commencer par acheter, les articles qu'on va commencer par acheter, que ça ne coûte pas trop cher.
Qu'en est-il des deux cas de contamination enregistrés jusqu'à présent au Bénin? Pour le ministre de la Santé, tout est sous contrôle et le gouvernement a très prêtre a pris la mesure de la situation.
Le gouvernement a commencé par acquérir déjà les équipements et consommables nécessaires pour la prise en charge optimale des patients et qu'il a déjà mobilisé une somme de 10 milliards de francs CFA destinés à la riposte. Depuis l'enregistrement du premier cas, nous avons démarré le traitement à la chloroquine dans le cadre d'un protocole de recherche sur consentement éclairé et écrit des patients et des sujets contacts.
Les mesures prises par le gouvernement ne semblent pas convaincre certains qui ont décidé de prendre eux-mêmes leurs responsabilités, comme garder leurs enfants à la maison et s'auto-isoler en attendant que la crise sanitaire que traverse le monde entier ne passe. De Cotonou, Jeanette Fleur, dans les Pouvoirs Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Sénégal est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest où le coronavirus est le plus présent avec 67 cas officiellement déclarés, mais aucun décès selon un bilan établi hier. Des mesures ont déjà été prises pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19, comme la fermeture des frontières, des lieux publics et des écoles et universités. Pour une continuité pédagogique, le ministère sénégalais de l'Éducation a d'ores et déjà lancé le programme « Apprendre à la maison ». Une chaîne de télévision propose quant à elle une émission à l'intention des élèves du pays, comme nous allons l'entendre. Les portes des établissements scolaires et universitaires sont closes depuis la semaine dernière à travers le Sénégal à cause du coronavirus. Mais ce ne sont pas tout à fait les vacances. Le gouvernement a mis en ligne la plateforme Apprendre à la maison pour permettre aux parents de suivre les enseignements et apprentissages des enfants à domicile. C'est donc pratiquement une journée d'école normale pour Ibrahima Diang, un élève de 11 ans. Sauf que désormais, il suit ses cours chez lui dans sa maison à Dakar, la capitale. Son enseignant, eh bien, il est lui dans un lieu différent derrière la caméra. Cette classe est offerte par le truchement de la chaîne TFM pour aider à faire que les écoliers ne prennent pas trop de retard au niveau de leur cursus scolaire.
Ça nous permet d'apprendre. Et nous permet de préparer l'entrée en sixième.
Les promoteurs de l'initiative disent vouloir contribuer au projet de continuité pédagogique à un moment où la vie quotidienne au Sénégal est bouleversée par la pandémie de coronavirus. Ils croient également qu'elle pourrait servir comme modèle dans les pays de la région où de nombreux parents n'ont pas facilement accès à Internet, mais dont les enfants sont confrontés à des semaines ou plus sans école. Une bonne initiative, estime le père d'Ibrahima, Cheikh Diang, et lui-même directeur d'une école à Dakar, fermée elle aussi depuis l'annonce du président Macky Sall il y a plus d'une semaine.
Donc c'est une initiative salutaire qu'il faut saluer. D'ailleurs, ça ne devait même pas seulement être une chose à faire pendant cette période de pandémie, c'est une chose qu'il faut faire de façon régulière. Parce qu'on sait que les conditions de vie dans les maisons sont difficiles. Les enfants n'ont pas d'espace pour apprendre, ils n'ont pas toujours les moyens et la télé constitue un bon relais pour aider, pour renforcer, pour encadrer les enfants.
Cette émission éducative a été conçue par l'enseignant Massamba Gueye. Le premier épisode a été diffusé sur la chaîne TFM le lundi 16 mars dernier.
L'émission s'appelle la salle des profs. Le principe, c'est des enseignants qui vont en classe, qui ne retrouvent pas leurs élèves, qui reviennent en classe et qui débriefent sur les difficultés qu'ont les élèves et qui donnent des stratégies d'apprentissage. Et les élèves, chez eux, ils assistent à ce débat-là.
Ces programmes éducatifs, diffusés quotidiennement, sont destinés aux élèves qui prévoient de se présenter aux examens à la fin de l'année scolaire.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Salut les amis, ici Roger Montout de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, point final à cette édition du Monde aujourd'hui. Le journal vous a été présenté par Idrissa Sedoudia. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voafrique.com. Restez branchés pour les derniers développements liés à la pandémie de coronavirus. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care. Prenez bien soin de vous.